La parole des contes avec Anne Wang.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans la forêt des contes à l'émission La parole des contes. Pour cette fois-ci, nous abordons le conte type 451, La petite sœur à la recherche de ses frères. Selon les versions, les frères en question, ils sont 6, ils sont 7, ils sont 12. Et dans la version que nous allons voir tout de suite, là, la version de Basile, qui est un Napolitain des années 1600, les frères sont 12. Alors, pour nous faire entrer dans cette ambiance napolitaine, j'ai choisi pour vous cette petite musique.
Si avesse fatta notte.
Il était une fois dans le village d'Arzano, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Naples, une brave femme qui pondait chaque année un enfant mâle, tant et si bien qu'elle avait déjà 7 fils, de taille décroissante, comme les 7 tuyaux de la flûte du dieu Pan. Alors qu'elle était grosse pour la 8e fois, ces 7 garçons, qui avaient depuis longtemps perdu leurs dents de lait, dirent à Yanatella, c'était la maman, « Sache, maman, que si après tant de fils mâles, tu ne fais pas une fille, nous sommes résolus à quitter la maison pour aller par le vaste monde comme les petits du maire, les rangs, et nous désespérons. » En entendant cette triste décision, la mère pria le ciel pour qu'il délivre ses fils de ce désir et lui évite de perdre ainsi les 7 gemmes qui constituaient son seul trésor. Quand l'heure de l'accouchement fut arrivée, les 7 frères dirent à Yanetella, leur maman, « Nous nous retirons au sommet de cette colline escarpée que tu vois là-bas. Si tu as un garçon, place un encrier et une plume sur la fenêtre, et si c'est une fille, mets-y une cuillère et une quenouille. Quand nous verrons le signal, si c'est une fille, nous reviendrons, passer le restant de nos jours sous ton aile, mais si c'est un garçon, oublie-nous, il sera vain de nous chercher. » Ils partirent et le ciel voulut que la maman, Yanatella, accoucha d'une belle petite pouponne. Mais la sage-femme qu'elle avait chargée de mettre le signal pour ses fils se montra si abrutie et si distraite qu'elle sortit, devinez quoi, chers auditeurs, chères auditrices, au lieu de mettre donc la quenouille, eh bien, elle mit l'encrier, la plume sur la fenêtre. Alors, les 7 frères le virent de loin et ils se mirent en chemin après avoir marché pendant 3 longues années. Ils arrivèrent dans une forêt où les arbres, au son d'un fleuve qui jouait en contrepoint sur les pierres, dansaient la farandole. Et là, ils trouvèrent la maison d'un ogre qu'une femme avait privé de ses yeux pendant qu'il dormait et qui, s'étant fait l'ennemi juré du beau sexe, dévorait toutes les femelles qu'il attrapait. Les 7 jeunes hommes arrivèrent à la maison de l'ogre, bien fatigués de leur voyage, et ils demandèrent à l'ogre si, par charité, il n'accepterait pas de leur donner un morceau de pain. L'ogre leur répondit qu'il leur donnerait même mieux de quoi vivre tous les jours s'ils acceptaient de le servir, que leur seule tâche serait de le guider, chacun son tour, comme un petit chien. Les jeunes garçons eurent l'impression de retrouver père et mère. Ils s'accordèrent donc avec l'ogre pour rester à son service. Celui-ci les installa dans une pièce en sous-sol, leur donna ce qu'il fallait pour qu'ils puissent survivre et il apprit leur nom. Ainsi, il appelait tantôt Giangrazio, Cecitello, Pascale, Nuccio, Pone, Pezzio et Carcavecchia. Et c'était le nom des frères. Entre-temps, leur sœur avait grandi. Et elle avait appris que ses sept frères, à cause d'une étourderie de la sage-femme, ses frères étaient partis errer à travers le monde et qu'on n'avait plus aucune nouvelle d'eux. Lui vint alors l'envie d'aller à leur recherche. Et elle jargonna tant sa mère que celle-ci, assourdie par ses prières, lui donna un habit de pèlerine et la congédia. Et la petite sœur chemina, chemina, chemina longtemps, longtemps, demandant continuellement en tout lieu si l'on avait vu ses sept frères. Et enfin, après avoir parcouru de nombreuses contrées, elle apprit dans une auberge où ils étaient. Elle demanda le chemin de la forêt et un matin, quand le soleil efface avec son petit couteau les gribouillis que la nuit a tracés sur le papier céleste, elle arriva devant la maison de l'ogre où ses frères la reconnurent avec grand plaisir, tout en maudissant l'encrier et la plume, ces faussaires de leur destinée. Après lui avoir fait mille caresses, ils lui recommandèrent de rester enfermée dans leur chambre, afin que l'ogre ne la vît point. Elle devait en outre, si quelque nourriture lui tombait entre les mains, en donner un morceau à la chatte qui était dans cette pièce. Sinon, elle serait en grand danger. Et vous allez voir quel danger elle va encourir. Tchana, ainsi se nommait la petite sœur, grava ses conseils sur les tablettes de son cœur. Tout ce qu'elle mangeait, elle le partageait avec la chatte. Moitié, moitié. Une cuillère pour moi, une cuillère pour toi et une cuillère pour la fille du roi. Lui donnant souvent sa propre part jusqu'à la dernière miette. Mais un jour, sur un ordre de l'ogre, les frères partirent à la chasse en laissant à leur sœur un panier de pois chiches à faire cuire. Malheureusement, les triants, elle trouva une noix. Et ce fut le grain de sable qui enraya le cours de son repos, car elle porta à sa bouche sans en donner la moitié à la chatte, laquelle par dépit alla pisser sur le feu et l'éteignit. Alors Tchana, bouleversée, oublia la recommandation de ses frères, sortit de la pièce et entra chez l'ogre pour lui demander un peu de feu. Au son de cette voix de femme, l'ogre s'écria « Bienvenue patron, attends un peu, t'as trouvé ce que tu cherchais !» Et il saisit une meule, la huila comme il faut et commença à affûter ses crocs. Voyant que les choses tournaient mal, Tchana prit un tison, courut dans sa chambre, barricada la porte avec tout ce qu'elle trouva, des barres, des chaises, des escabeaux, des tiroirs, des pierres et différents meubles qui étaient là. Quand l'ogre eut fini son affûtage, il courut à la chambre et trouvant la porte close, il commença à la démolir à coups de pied. Alertés par ce bruit, les sept frères se précipitèrent et découvrirent l'ogre en plein carnage, hurlant qu'ils étaient des traîtres car leur chambre était devenue la terre d'asile de ses pires ennemis. Alors Giangrazio, qui était l'aîné et aussi le plus raisonnable, voyant l'affaire mal engagée, dit à l'ogre « Nous ne savons rien de cette affaire. Il se peut qu'une femme soit entrée dans cette chambre, par malheur, pendant que nous étions à la chasse. Mais puisqu'elle s'est barricadée derrière la porte, viens, viens avec moi, Je connais un passage pour la surprendre sans qu'elle puisse se défendre. » Prenant l'ogre par la main, il l'emmena près d'une fosse très, très, très profonde où ses frères, d'une solide bourrade, l'envoyèrent rouler et le recouvrir de terre avec des pelles qu'ils trouvèrent sur le sol. Ensuite, ils se firent ouvrir la porte par leur sœur et lui ayant rabattu copieusement les oreilles avec l'erreur qu'elle venait de commettre, qu'il avait mise en grand danger, ils lui demandèrent d'avoir à l'avenir un peu plus de cervelle et surtout de ne pas cueillir d'herbe à l'endroit où l'ogre était enterré, car il serait aussitôt transformé en cette colombe. « Oh, Dieu m'en garde !» répondit Tiana. « Il ne voudra pas que je vous cause un tel dommage !» Sur quoi ils s'approprièrent les biens de l'ogre, occupèrent toute la maison et vécurent allègrement, attendant la fin de l'hiver, quand le soleil offre à la terre, en récompense de la conquête de la maison du taureau, une belle jupe verte toute brodée de fleurs, pour se mettre en chemin et retourner chez eux. Mais un matin que les frères coupaient du bois dans la montagne afin de se protéger du froid qui piquait un peu plus chaque jour, un pèlerin vint à passer dans la forêt, lequel, pour s'être moqué d'un chat sauvage perché sur un pin, avait reçu une pomme de cet arbre sur la coloquinte et elle lui avait fait une bosse si énorme que le pauvret hurlait comme un damné. Le bruit fit sortir Tiana, qui, apitoyée par cette souffrance, coupa aussitôt une branche de romarin d'un buisson poussé sur la tombe de l'ogre, pour lui appliquer un emplâtre avec du pain mâché et du sel. Puis elle lui donna une petite collation et le renvoya. Tiana préparait la table en attendant ses frères. Et qui vit-elle arriver au lieu de voir ses frères arriver? Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez une idée? Elle vit arriver cette colombe qui lui dit « Ah, il aurait mieux valu qu'on t'eût tranché les mains à toi cause de tous nos malheurs avant que tu ne cueilles ce maudit romarin qui nous oblige maintenant à voler au-dessus des flots. As-tu donc mangé de la cervelle de chatte serette pour avoir oublié notre recommandation? Nous voici oiseaux. Proie idéale pour les griffes des mille ans. » Alors là, tenez-vous prêts parce que nous allons avoir une longue liste d'oiseaux prédateurs des pauvres petites colombes qu'ils sont devenus. Donc, nous voici oiseaux, colombes, proie idéale pour les griffes des mille ans, des éperviers, des autours, des chardonnerets. Nous voici compagnons, pardon, la liste est encore beaucoup plus longue ici. Nous voici compagnons des chardonnerets, des guépiers, des fauvettes, des pites, des pinsons, des chouettes, des corneilles, des cublans, des alouettes, des butors, des bécasses, des bergeronnettes, des pigrièges, des poules d'eau, des tarins, des pouillots, des torcoles, des passereaux, des striches, des huppes, des grèbes, des morillons, des verniers, des rousserolles, des roitelets, des linottes, des grelots, des gelinottes, des sarcelles, des grenouillères, des gobe-mouches, des pivers et des maisons charbonnières. Ah, t'as vraiment réussi ton affaire. Nous voici revenus au pays pour trouver des filets et des pièges visqueux pour soigner la tête d'un pèlerin. T'as fracassé la tête de tes sept frères. Et sache qu'il n'existe aucun remède à notre malheur si tu ne trouves pas la mère du temps qui t'enseignera la manière de nous sortir de ces tourments. » Tiana, qui était restée sans voix, comme caille plumée devant l'erreur qu'elle avait commise, demanda pardon à ses frères et s'offrit à parcourir le monde jusqu'à ce qu'elle trouve la maison de cette vieille, la mère du temps. Ayant prié ses frères de rester dans leur maison jusqu'à son retour, afin qu'il ne leur arrive pas quelque malheur, elle se mit en chemin. Elle chemina sans trêve et sans fatigue, car même si elle allait à pied, le désir d'aider ses frères l'éperonnait, comme la mule d'un courrier, et lui faisait parcourir plus de 3000 à l'heure. Elle arriva ainsi sur une plage, où la mer, de sa baguette ondoyante, fustigeait les récifs qui ne voulaient pas exécuter le pinsum qu'elle leur avait donné. Et elle vit une grosse baleine. Qui lui dit « Ma jolie mignonne, où vas-tu ainsi ?» Et Tchana répondit « Je cherche la maison de la mère du temps. » « Sais-tu ce que tu dois faire ?» répondit la baleine. « Va toujours droit devant toi, le long de ce rivage, et le premier fleuve que tu rencontreras, remonte-le jusqu'à sa source. Là, tu trouveras quelqu'un qui te montrera le chemin. » Et accorde-moi une faveur. Quand tu verras cette brave vieille, la mère du temps, demande-lui, s'il te plaît, de ma part, un remède pour que je puisse cheminer en sécurité, sans heurter constamment des écueils et finir si souvent sur le sable. Laisse-moi faire, dit Tchana. Et elle remercia la baleine pour ses indications. Puis elle commença à trottiner sur la plage. Et après un long voyage, elle arriva au fleuve qui, comme un employé du fisc, déboursait ses monnaies d'argent sur la banque de la mer. Elle prit le chemin des sources et arriva dans une riante campagne où les prés singeaient le ciel en étalant devant lui leur manteau vert constellé de fleurs. Et elle trouva là un rat qui lui dit « « Où vas-tu ainsi toute seule, ma beauté ?»« Et je cherche la mère du temps. »« Oh, tu as encore bien du chemin !» ajouta le rat. « Mais garde courage, tout a une fin. Marche vers cette montagne qui, en suzeraine de ses campagnes, se fait appeler Altesse, et tu obtiendras des renseignements plus précis sur ce que tu cherches. Et, Bella, accorde-moi une faveur. Quand tu seras arrivée à la maison que tu désires, demande-lui à cette bonne petite vieille, la mère du temps, quel remède nous pourrions trouver pour nous débarrasser de la tyrannie des chats. Et tu pourras m'ordonner ce que tu veux. Je serai ton esclave. » Tchana lui promit d'obtenir cette faveur et elle se dirigea vers les montagnes qui semblaient proches, mais où l'on n'arrivait jamais. Plus tu t'approches, plus elles reculent. Elle finit toujours par les rejoindre et elle s'assit épuisée sur une pierre où elle vit une armée de fourmis qui transportait une belle provision de blé. L'une des fourmis s'adressa à Tchana et lui dit « Qui es-tu ? Où es-tu ? Toujours aussi courtoise ?» Tchana dit « Je suis une malheureuse jeune fille et je dois absolument trouver la maison de la mère du temps. » Continue ton chemin, dit la fourmi. Au-delà de ces montagnes, tu trouveras une grande plaine. Et tu glaneras d'autres renseignements, mais accorde-moi une immense faveur. Interroge un peu cette vieille, la mère du temps, sur ce que nous devons faire, nous autres fourmis, pour vivre plus longtemps. Car est-il sur Terre une folie plus grande que d'accumuler ainsi des réserves de nourriture pour qu'il y a, comme nous, une vie si brève, qui s'éteint comme la chandelle d'un vendeur à l'encan lorsque tombe l'offre la meilleure. N'aie crainte, dit Tchana, tu seras récompensée de ta gentillesse. Et elle passa les montagnes. Elle arriva dans une belle et immense plaine où elle finit par trouver un grand chêne, témoin de l'Antiquité, ultime dragée d'une épouse autrefois heureuse et friandise que le temps offre à notre siècle veuf des douceurs perdues. Son écorce se fit lèvres et son cœur se fit langue. Et le chêne dit à Tiana: où donc cours-tu avec ton deux hâtes, belle enfant? Viens plutôt te reposer sur mes ombrages. Tiana lui rendit mille grâces et s'excusa, car elle devait se dépêcher de trouver la mère du temps. Alors le chêne lui dit: tu n'en es plus très loin. Encore un jour à peine et tu verras une maison au sommet d'une montagne où tu trouveras ce que tu cherches. Et si tu es aussi courtoise que tu es belle, tâche donc de savoir ce que je pourrais faire pour récupérer mon honneur perdu et cesser d'être de la pâtée pour les cochons, moi qui faisais les délices des seigneurs.
Oh, laisse-moi faire, répondit Tiana, je tâcherai de te satisfaire.
Sur ce, Tiana partit, marcha sans jamais perdre de repos. Elle arriva enfin au pied d'une montagne importune qui s'entêtait à troubler les ébats festifs des nuages. Et là, elle trouva un petit vieux, très fatigué, qui s'était allongé sur une meule de foin. C'était le pèlerin dont elle avait soigné la bosse. Il la reconnut, et quand elle lui a raconté ce qu'elle cherchait, il lui dit qu'il allait justement porter au temps le loyer du champ qu'il avait ensemencé. Il dit aussi que le temps était un tyran, qui avait fait main basse sur toutes les choses de ce monde et exigeait force tribut, particulièrement des hommes de son âge. Mais que comme Tiana était bonne avec lui, il voulait lui rendre son bienfait au centuple et l'avertir précisément de ce qu'elle trouverait sur cette montagne. Lui, malheureusement, ne pouvait pas l'y accompagner, car son âge le prédisposait plutôt à la descente qu'à la montée, et le contraignait à rester au pied de ses hauteurs pour régler ses comptes avec les greffiers du temps, c'est-à-dire les peines, les mésaventures, les tourments de la vie, payer sa dette à la nature.
Écoute-moi, ma jolie, si pure, si belle. Tu dois savoir qu'au sommet de cette montagne se trouve une maison toute délabrée dont personne ne se rappelle quand elle a été construite. Les murs sont lézardés, les fondations sont inondées, les portes vermoulues, le mobilier moisi, enfin tout est usé et cassé. Ici, des colonnes effondrées, là, des statues en morceaux. Rien n'est entier, sinon un écusson enchâssé au-dessus de la porte où figure un serpent qui se mord la queue, un cerf, un corbeau et un phénix. Dès que tu seras entré, tu verras par terre des limes, des scies, des faux et des fossiles et des centaines de marmites remplies de cendres avec des noms inscrits dessus, comme sur les flacons des apothicaires. Mais là, ce sont des villes, Corinthe, Sagonte, Carthage, Troie, et mille autres villes mises à sac, qu'il conserve ainsi en souvenir de ses exploits. Quand tu seras près de cette maison, cache-toi, jusqu'à ce que le temps sorte, et quand il sera sorti, entre à ton tour. Là, tu trouveras une vieille, plus que vieille, avec une barbe qui descend jusqu'à terre et une bosse qui monte jusqu'au ciel, des cheveux qui, comme la queue d'un cheval pommelé, recouvrent ses talons, une face qui ressemble à une fraise tuyautée à mi-donnée par les années. Elle est assise sur une horloge, encastrée dans le mur, et ne pourra te voir car ses paupières sont si épaisses qu'elles ensevelissent ses yeux. À peine entrée, ôte sur le champ les contrepoids de l'horloge, puis appelle la vieille et supplie-la de te dire ce que tu veux savoir. » Elle, aussitôt, aillera son fils, qui accourra pour te manger. Mais, car l'homme comme l'horloge qui est sous sa mère n'aura plus de contrepoids, il ne pourra plus marcher et sera contraint de te donner ce que tu désires. Et n'écoute aucun des serments qu'elle te lancera, à moins qu'elle ne jure par les ailes de son fils. Alors crois-la et fais ce qu'elle te dira, tu seras satisfaite. » Tandis qu'il parlait ainsi, le pauvret se désagrégea comme un cadavre qu'on sort de sa sépulture et qu'on expose à l'air. Jana recueillit les cendres, les mélangea avec une petite mesure de larmes et les ensevelit dans un trou qu'elle creusa, demandant au ciel la paix et le repos pour ses restes. Puis elle gravit la montagne et, tout essoufflée, attendit que le temps sorte de la maison. C'était un vieillard à la barbe très longue qui portait un manteau très usé, tout couvert de petits billets avec des noms inscrits dessus. Il avait de grandes ailes et courait si vite que Jana l'eut bientôt perdu de vue. Elle entra dans la maison de la mère et s'effraya fort devant cette sombre écorce. Toutefois, elle se saisit des contrepoids et dit à la vieille ce qu'elle désirait. L'autre se mit à couiner pour appeler son fils. Mais Jana lui dit « Papa, tu peux te taper la tête contre ces murs, tu verras pas ton fils tant que j'aurai ces contrepoids. » Voyant que ses pas étaient ainsi entravés, la vieille commença à la flatter en lui disant « Rends-les, ma chère fille, n'essaye pas d'arrêter la course de mon fils. Aucun homme vivant en ce monde n'a encore réussi cet exploit. Rends-les au nom de Dieu, et je te promets par l'eau forte de mon fils qui rôde toute chose que je ne te ferai pas de mal. » « Tu perds ton temps, » répondit Jana. « Il me faut d'autres serments si tu veux que je te les rende. »« Oh, je jure par les seins qui rongent, toute chose mortelle que je te ferai connaître ce que tu désires. »« Tu ne me tireras pas le plus petit bout de bois, » répliqua Jana, « car je sais que tu essayes de me berner. »« Bon, d'accord, » dit la vieille, « je jure par ces ailes qui volent par toute la terre que je veux te contenter au-delà de ce que tu peux imaginer. » Alors, à ce moment-là, Jana rendit les contrepoids et même baisa la main de la vieille, d'où s'échappaient des relents de moisie et de pourriture. Voyant la courtoisie de la jeune fille, la vieille lui dit « Cache-toi derrière cette porte, et quand le temps viendra, je lui demanderai ce que tu veux savoir. Quand il s'éloignera de nouveau, il ne peut jamais se fixer nulle part. Tu pourras l'esquiver, mais attention qu'il ne t'entende pas, car il est si goulu qu'il n'épargne même pas ses enfants, et quand il n'a plus rien à manger, il se mange lui-même, puis il refleurit de plus belle. » Jana fit ce que la vieille lui disait, et le temps arriva. Vite, léger, rapide. Il rongeait tout ce qui lui tombait entre les mains, jusqu'à la chaux qui couvrait les murs. Déjà, il fuyait. Quand sa mère lui raconta ce que Jana lui avait dit, il le pria, par le sein qu'il avait allaité, de répondre, point par point, à toutes ses requêtes. Après s'être bien fait prier, le fils répondit, « Oshen, je répondrai qu'il ne pourra jamais être aimé tant qu'il gardera ses trésors ensevelis sous ses racines. Aura, qu'ils n'échapperont jamais aux chats s'il ne leur attache pas une petite clochette à la patte pour les entendre approcher. Aux fourmis, qu'elles vivront 100 ans si elles peuvent s'empêcher de voler, car les ailes leur poussent quand elles veulent mourir. À la baleine, qu'elle soit aimable et s'attire l'amitié du rat des mers, qui sera pour elle un guide infaillible et fidèle. Aux colombes, enfin, qu'elles bâtissent leur nid sur la colonne de la richesse, et elles retrouveront leur premier état. Dès qu'il eut terminé, le temps reprit sa course effrénée et Tchiana prit congé de la vieille. Elle arriva au bas de la montagne, juste au moment où les 7 colombes qui avaient suivi ses traces arrivaient. Elles étaient épuisées par leur long vol. Elles allèrent se poser sur les cornes d'un bœuf mort et à peine les eurent-elles touchées de leurs pattes, qu'elles redevinrent 7 beaux jeunes gens. Très étonnés par ce prodige, ils écoutèrent la réponse du temps et comprirent que les cornes, symboles de la chèvre, étaient la colonne de la richesse dont le temps avait parlé. Ils se réjouirent fort avec leur sœur et s'en retournèrent par le même chemin. Ils retrouvèrent le chêne et lui rapportèrent ce que le temps avait dit. Le chêne alors leur demanda d'extirper de ses racines ce trésor qui avait fait perdre toute bonne réputation à ses glands. Les 7 frères prirent une pioche dans un potager, creusèrent jusqu'à ce qu'ils trouvent une grande jarre remplie de monnaies d'or qu'ils partagèrent en 8 pour pouvoir les transporter plus commodément. Cependant, comme ils étaient fatigués, ils s'endormirent sous une haie où une troupe de voleurs les aperçut. Voyant ces pauvres enfants dormir ainsi la tête sur leur trésor, ils les ficelèrent, pieds et poings liés, aux arbres voisins, empochèrent les écus et les laissèrent là à déplorer non seulement la perte trop rapide de leur fortune et surtout le risque qu'ils couraient de perdre aussi la vie, car si personne ne leur venait en aide, ou ils mourraient de faim, ou ils serviraient de coupe-faim à quelques bêtes sauvages affamées. Tandis qu'ils gémissaient sur leur infortune, voici qu'arriva le rat, auquel Tchiana livra la réponse du temps, et pour le remercier, le rat rongea les cordes qu'ils attachaient et leur rendit leur liberté. Je ne sais pas si depuis les rats ont eu la possibilité d'attacher des petites clochettes aux pattes des chats, mais je ne crois pas parce que... Mais bon, et donc continuons, et ils continuent leur chemin. En chemin, ils rencontrent la fourmi, qui écouta aussi le conseil de la mère du temps, enfin du temps, et demanda ensuite à Tchiana pourquoi elle avait cette mine triste et palote. Elle raconta que les voleurs leur avaient pris leur fortune. Alors la fourmi répliqua. Voici pour moi une occasion de rétribuer la faveur que j'ai reçue. Sachez donc qu'alors que j'enfouissais un chargement de blé sous terre, j'ai vu où ces chiens de brigands ont caché leur butin. Ils ont creusé sous une vieille maison des galeries où ils entassent les objets qu'ils dérobent. Comme ils sont partis pour un autre larcin, je vais vous accompagner et vous montrer l'endroit. Ainsi, vous pourrez récupérer votre bien. Elle se dirigea vers des baraques en ruine et montra aux 7 frères l'ouverture d'une galerie où Gian Grazio, qui était le plus courageux, se glissa. Il trouva tout l'argent qu'on leur avait volé, le prit, et ils se dirigèrent vers le rivage de la mer. Là, ils trouvèrent la baleine et lui livrèrent le conseil du temps, père de toute sagesse. Et tandis qu'ils caquetaient ensemble de leur voyage et de leurs aventures, voilà que surgirent, armés jusqu'aux dents, les voleurs qu'avaient suivi les traces de leurs pas. À cette vue, ils s'exclamèrent « Oh, hélas, malheureux que nous sommes, cette fois il ne restera plus rien de nous. Voici les voleurs, armés jusqu'aux dents, ils vont nous faire la peau. » « Ne craignez rien, répondit la baleine, car je vous sauverai même de l'enfer pour vous récompenser de toute l'affection que vous m'avez témoignée. Montez sur mon dos. » Et je vous emporterai en lieu sûr.
pris entre leurs ennemis et l'étendue de la mer, les pauvres montèrent sur la baleine qui nagea loin des récifs et les conduisit en vue de Naples. Mais comme les fonds étaient bas à cet endroit, elle n'osa pas débarquer les jeunes gens. Elle leur dit « Où voulez-vous que je vous dépose ? Le long de la côte d'Amalfi ?»« Eh, John Grazio, répondit, ne pourrions-nous pas aller plus loin, mon beau poisson ? Car aucun de ces lieux ne me plaît. Ah, maçon dit, salut et passe, à Sorrente, serre les dents, à Vico, à Mentono, à Castel de la Mer, ni à mine compère. » Alors la baleine, pour lui faire plaisir, s'enfuit vers la pierre salée, d'où ils se firent conduire à terre par le premier pêcheur qui passa. Ils retournèrent chez eux, vivants, beaux et riches, à la grande joie de leurs parents. Et grâce à la douceur de Tiana, ils vécurent heureux, authentifiant ainsi le vieil adage « Fais le bien quand tu peux, puis oublie-le !» Termine ce conte. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, de l'avoir écouté. Et les contes, c'est pas mal quand on les lit, c'est encore mieux quand on les entend, et c'est encore beaucoup mieux en présentiel. Et donc, si vous êtes à Saint-Gély-du-Fesc le dimanche 21 décembre, eh bien, vous pourrez en écouter et en entendre. Eh bien, je vous souhaite une joyeuse semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.